littérature,
cybernétique,
avenir,
prospective,
science-fiction,
liberté,
utopie.
We can face any future.
Any future.
Any future.
Le podcast des Utopiales. Utopiales 2021. Conversation croisée entre Benjamin Adam et Robin Cousin. Modération, Henri Landré.
Bonjour, bienvenue, merci d'être à l'écoute de cette rencontre, conversation croisée entre Benjamin Adam et Robin Cousin, deux auteurs de bande dessinée. Cette conversation est l'une des nombreuses rencontres qui ont été reportées d'un an, donc puisqu'on l'avait prévu il y a un an pile, pour ces mêmes utopiales. Et l'idée était venue autour du travail que Benjamin Adam et Robin Cousin ont mené en bande dessinée depuis quelques temps, principalement autour de deux livres qu'on va détailler ici par quelques projections d'images. Donc ça, c'était l'image de bienvenue, menu spécial Apocalypse. C'est un extrait du livre le plus récent de Robin Cousin aux éditions Flubbelub. Il s'agit de Cursus fin du monde, tout est dans le titre. En fait, je vais essayer de vous raconter rapidement le contexte de cette rencontre. Benjamin et Robin, avant il y a donc maintenant une petite année, ne s'étaient jamais vraiment rencontrés, mais ont travaillé en même temps et sans se concerter sur presque le même arc narratif pour deux livres. L'un s'intitule Soon, il est signé Benjamin Adam et Thomas Cadenne, il est publié chez Dargo il y a 2 ans maintenant, à peu près. L'autre s'intitule « Des milliards de miroirs », il est signé Robin Cousin et il est publié aux éditions Flubbelub. Et les deux ont pour principe de base la conquête spatiale, le devenir de l'humanité dans quelques décennies, voire un peu plus, et l'écocide en cours et des questions liées donc à l'effondrement écologique, à la collapsologie et à tout un tas de choses qui résonnent fortement chez ces deux hommes, chez moi aussi d'ailleurs, et qui se sont traduits par ces deux livres de bande dessinée que je recommande fortement. Depuis, d'autres livres sont sortis qui prolongent ces questionnements. Uos de Benjamin Adam chez 2024, un livre muet. Vous avez peut-être entendu hier une rencontre autour de la bande dessinée et la narration en images seulement et sans texte, où Benjamin était présent. Et puis Cursus fin du monde donc de Robin Cousin. Mais on le verra aussi, si on a le temps. Eh bien, Robin comme Benjamin continuent de travailler sur des prolongements autour de ces différentes thématiques qui sont de toute façon sans fin, qui sont à la fois politiques, sociales, éventuellement futuristes, inquiétantes, amusantes, je ne sais pas, on verra. On peut, la preuve, avec ce menu spécial Apocalypse. Et voilà, d'où ce prétexte, cette envie de faire dialoguer les deux auteurs ensemble autour de ces questions-là et peut-être revenir sur les origines de tout cela. Alors, voilà la couverture de « Des milliards de miroirs » de Robin Cousin, qui n'est pas ton premier livre, mais qui est celui qui a le plus directement fait écho à des questionnements justement d'écocide. Et Soon de Benjamin Adam et Thomas Cadenne chez Dargo. Les deux livres ont évidemment des approches graphiques complètement différentes, mais vraiment, encore une fois, des points communs assez forts. Et c'était à l'occasion d'un entretien qu'on avait mené ensemble, Robin, et qui avait été diffusé à la radio, que Benjamin avait écouté, que Benjamin m'avait contacté en disant « Mais c'est dingue, on a vraiment une approche assez commune. » Alors, est-ce que cette approche est commune? On va essayer de le voir, là. Je ne sais pas. Depuis, chacun a lu le travail de l'autre, et les choses se sont évidemment, de manière un peu plus subtile, discernées. Mais peut-être on peut revenir aux origines de tout ça. Comment est-ce qu'on s'imprègne de thématiques assez complexes, voire angoissantes, telles que l'effondrement écologique, l'effondrement de société, et comment est-ce qu'on traduit ça dans sa création? À quel endroit ça semble juste? Combien de temps de questionnement, d'aller-retour vous avez fait l'un et l'autre avant d'arriver à mettre en forme Des milliards de miroirs ou Soon? Robin, donc, pour commencer.
Alors moi, les questions écologiques sont arrivées un peu ensuite, après. Enfin, j'étais pas parti pour parler vraiment de ça. Je crois que l'idée de des milliards de miroirs, c'était de. À l'époque, on avait découvert le boson de Higgs et on en avait parlé pendant 3-4 jours aux infos et ensuite plus du tout. Et je me suis dit, c'est fou, une découverte comme ça, en fait, comment ça se fait que ça ne change pas grand-chose à notre société, à notre civilisation, une découverte aussi importante. Et j'avais envie de parler de découvertes éventuelles, de civilisations extraterrestres, et je m'amusais à imaginer ce que ça pouvait chambouler dans la vie de tous les jours des gens, d'apprendre, par exemple, qu'il y aurait peut-être de la vie sur une planète pas si lointaine. Donc j'en ai parlé à tous mes amis, tout le monde avait son point de vue, tout le monde avait sa théorie sur qu'est-ce que ça changerait, il y a la théorie des guerres de religion, les théories comme quoi ça changerait absolument rien, que au contraire que ce serait un basculement total de toute la civilisation si on apprenait ça. Et donc je voulais mettre en scène un peu ces différentes manières de réagir à une annonce aussi bouleversante. Et pour les biens de l'histoire, il fallait que ça se passe dans un futur pas trop lointain, parce qu'on y croit, mais en même temps, pas tout de suite, quoi. Et quand on commence à penser à l'avenir, c'est difficile de ne pas parler d'écologie. Donc en fait, l'écologie arrive à ce moment-là, quand j'ai commencé à imaginer le monde dans lequel cette annonce pouvait arriver. Et en fait, je crois que j'avais vachement envie de parler d'écologie, mais je ne me l'étais pas encore vraiment avoué. Et puis, finalement, la question de l'écologie est devenue... s'est imposée d'elle-même. Et puis, l'idée d'imaginer notre civilisation, est-ce qu'elle avait autant détruit la planète que nous? Est-ce qu'on pouvait s'entraider? Est-ce qu'on pouvait apprendre d'une autre manière de vivre sur sa planète? C'est devenu les questions un peu clés de ce livre. Mais ça, chez moi, ça arrive souvent, le sujet, il arrive en cours, quoi. C'est rarement... À chaque fois, je crois que je vais parler de quelque chose et en fait, je parle d'autre chose. Voilà.
Benjamin ?
C'est assez drôle parce que, pour le coup, Soon, donc on l'a écrit à deux avec Thomas. À la base, c'était une... Enfin, c'était une idée à moi, avant que ça devienne un projet et une histoire, c'était une idée, on va dire. Et cette idée, c'était de faire se cogner un récit d'exploration spatiale avec un récit de fin du monde. Voilà. Et cette envie-là, c'était peut-être 10 ans avant la sortie, et ça découlait, comme souvent, d'émissions de radio écoutées pendant que je travaillais à d'autres choses. Et... ce que je me formulais à ce moment-là, c'était une fin du monde, mais comme on en voit dans le cinéma, quoi, un truc brutal qui change tout du jour au lendemain, avec des grands cris, des héros, des gens laissés sur le côté. Et entre cette idée qui n'a finalement rien donné vraiment d'immédiat, parce que j'avais jamais le temps, je faisais toujours autre chose, puis finalement c'était trop gros pour moi tout seul. Et quand je me suis formulé que ce serait mieux d'essayer d'y réfléchir avec quelqu'un, j'avais déjà commencé à travailler avec Thomas sur des projets qui n'étaient pas destinés à l'édition, qui étaient plutôt de la commande pour des architectes. Et c'est seulement quand on a commencé à en parler que c'est pareil, ce tropisme un peu écologique s'est vraiment imposé, parce que c'est quelque chose qui nous questionnait, qui nous inquiétait, qui nous... dont on n'arrivait pas vraiment à faire quelque chose dans notre travail, l'un comme l'autre. Et donc cette fin du monde super spectaculaire à laquelle je pensais au tout début s'est transformée en ce long récit d'effondrement, petit domino par petit domino, qu'on voit dans Soon pour ceux et celles qui l'ont lu. Donc on est plutôt sur un point de convergence avec Robin, j'ai l'impression. Ça s'est imposé presque comme un passager clandestin qui fout tous les autres dehors, quoi.
C'est drôle. Alors tous les autres pas forcément, parce que l'autre point commun de vos deux récits, c'est certes il y a ces éléments que vous venez de décrire, mais il y a aussi une multitude de personnages, des scènes et des représentations d'une vie sociale possible, de différents aspects de la société. Il y a de la politique aussi, il y a évidemment une narration avec des enjeux dramatiques ou sentimentaux qui peuvent drainer tout ça, parce qu'on est quand même dans une bande dessinée et qu'il y a un récit à tenir. Mais ça vous permet aussi, ça vous a permis, peut-être en cours de travail, de traiter aussi différents sujets, différents aspects de la société telle que vous la recevez. Et peut-être, mais ça sera pour après, peut-être que dans les suites, dans les bouquins que vous faites ces temps-ci, ça serait comme des suites possibles ou des extraits possibles de ce qui était de manière assez dense contenu dans ces deux livres-là.
Oui, alors la question de l'interaction de beaucoup de personnages, pour moi, ça a été une manière aussi de parler d'un point qui est quand même important face à ces questions de... Bon, alors, le grand mot, c'est l'effondrement possible de la civilisation. Ou c'est qu'il y a une incertitude quand même qu'il faut pas oublier. Et en fait, pour moi, la solution pour parler de cette incertitude, et c'est que cette incertitude face à l'avenir, en fait, qu'est-ce qui va se passer, comment on doit réagir, ben, ça a été de montrer plein de personnages qui chacun portait une manière différente d'envisager la question, d'y réagir ou de ne pas y réagir, et qui était chacun un petit morceau de moi-même. Selon le jour, j'étais plus tel personnage et l'autre jour un autre, quoi. Et pour mettre un peu au clair toutes mes questions et mes doutes face à cette question, j'ai mis plein de personnages qui chacun les portait de manière beaucoup plus affirmée et je les ai fait interagir. Donc c'était aussi une manière d'y voir plus clair, quoi. Voir plus clair avec quelle partie de moi-même j'étais le plus d'accord, quoi, quelque part.
Et tu as la réponse ?
Un peu.
Aujourd'hui ?
Ouais, une réponse temporaire, ouais, j'en ai une. Je ne saurais pas trop l'expliciter là tout de suite, mais...
Benjamin, sur ces mêmes questions de... Alors, il y a une multitude de personnages, même si on suit principalement deux personnes dans Soon, mais il y a quand même cette idée de pouvoir représenter plusieurs voix.
Ouais. Et c'est pareil, ça paraît vraiment indispensable avec une thématique comme ça. Alors là, en l'occurrence, sur Soon, comme on travaillait à deux, de toute façon, il y avait dès le début des positionnements. Enfin, on pouvait être d'accord sur certains aspects et pas sur d'autres. Et il s'agissait, comme dans toute collaboration, en fait, de trouver un chemin qui satisfasse un peu les deux. Thomas étant plus, je pense, fondamentalement plus optimiste que moi à ce moment-là, qui venait de prendre pas mal d'éléments scientifiques sur le climat, sur de potentielles évolutions politiques. J'étais pas en pleine forme quand même quand on a commencé à travailler là-dessus.
Et c'est un point commun aussi,
ouais, je pense. Et évidemment, sans aller trop loin dans ce truc du livre thérapique, il s'agissait vraiment de, c'est ça, presque de faire incarner par ces différents personnages les différentes posture qu'on pourrait adopter, et de aussi en les incarnant et en les faisant vivre. Dans Soon, on s'est vraiment demandé comment on pourrait vivre des gens en 2150, ce qui, quand on prend cette question juste comme ça, est assez flou, mais en reconstituant toutes les choses situées entre 2018 et 2150, en essayant de retracer un parcours politique, écologique, climatique, finalement, on arrivait à pouvoir se sentir légitime de les faire évoluer dans tel type de vie, avec tel type de gens. Et je pense que, quand même, ça jouait aussi ce rôle de nous sentir un peu moins impuissants et désarmés, en fait, face à ces questions-là, en se disant, bon, admettons qu'il se passe tout un tas de suites d'événements un peu flippante et catastrophique, ça ne voudra pas dire que ce sera la fin de tout, ce sera la fin d'un certain nombre de choses que nous on connaît, et c'était aussi dans nos envies, il y avait l'idée de, d'appuyer qu'il resterait des gens et qu'ils continueraient à faire des trucs. Voilà. Et c'est là que le lien avec l'exploration spatiale était intéressant. Parce que c'est, pour moi, il y avait un, c'était presque des opposés, en fait, de faire...
Je pense qu'il faut que tu rapproches un peu ton micro. Parce que plus tu parles, plus tu l'éloignes.
C'est un test, en fait.
C'est pour voir. Okay. Vous avez une bonne oreille ?
Donc, on est à 20 cm, je pense. Oui, non, juste, c'était des opposés. Entre le fait de vouloir aller dans l'espace, qui serait donc un... Là, je parle trop fort et trop près. Qui serait comme une manifestation de surprétention, de surambition. Et puis, de l'autre côté, un monde qui, par cette ambition... C'est là que pour moi le projet prenait du sens en tout cas.
Je voulais revenir sur cette notion de découragement que vous avez tous les deux ressenti peut-être avant même d'accumuler de la documentation, mais d'être à un moment de, en tant qu'être humain, vous avez reçu un certain nombre d'informations qui peuvent être décourageantes. À quel moment il y a ce déclic, cette impulsion de se dire qu'est-ce que je sais faire ? Je sais faire par exemple une création en bande dessinée. Et ça peut avoir du sens de dire quelque chose avec ça.
Alors moi, c'est déjà, j'ai compris avec le temps que comme la bande dessinée, c'est quand même un travail assez laborieux, que ça prend beaucoup de temps. On va passer, moi, je passe en moyenne, on va dire 2 ans, 2 bonnes grosses années sur un projet. Et quitte à passer autant de temps sur un sujet, autant que ça m'apporte quelque chose, quoi. Il y a quelque chose, une sorte de calcul. Qu'est-ce que je vais pouvoir retirer de ces 2 ans ? Donc, affronter cette question-là, qui était une question, une angoisse très forte, je vais profiter de ces 2 années à travailler à fond sur ce sujet pour défricher un peu. Affirmer un peu plus mon point de vue, mon positionnement, c'est presque avant tout un choix personnel, quoi. Je vais passer du temps là-dessus autant que ça me serve à quelque chose. Après, par rapport au lecteur, j'avais, je crois, avec le recul, je pense que j'avais envie de faire un peu peur au lecteur. De lui faire ressentir la peur que moi j'avais. C'était un choix que j'ai fait, par exemple, c'est que ça se passe dans un futur qui semble très proche. C'est pas daté, pour pas qu'on commence à dire en 2028 « Ah ben il s'était trompé, ça s'est pas passé comme ça ». Enfin, j'avais pas envie de rentrer dans ce genre de questions. Donc je voulais qu'on sente que c'était un futur très proche, que le monde ressemble beaucoup au nôtre, mais que c'est encore pire et les gens continuent à se comporter comme nous, c'est-à-dire que ça change pas grand chose en fait dans les choix politiques ou sociétaux, et qu'on ait un truc genre mais pourquoi ils font rien, pourquoi ils se bougent pas, ça a l'air d'être catastrophique et ils font rien, et que ce truc là fasse écho à mais en fait, nous non plus, c'est déjà le bordel et on ne fait pas grand-chose. Et qu'est-ce qu'on attend ? Je voulais créer un peu faire passer un peu de mon angoisse, peut-être un peu égoïstement.
Benjamin ?
Sur cette question-là, pour le coup, avec Thomas, ce qu'on s'était vraiment dit, c'était essayons d'imaginer qu'à un moment, les choses s'arrangent. Et que tout ne soit pas aussi horrible que ce qu'on peut s'imaginer de plus horrible. Ça nous semblait super salvateur pour nous, mais aussi, on en parlait pas mal, et je pense qu'on est nombreuses à avoir un peu cette question-là du rapport qui peut exister entre les histoires qu'on lit et la vie qu'on mène, et en tout cas le fait que ça devienne peut-être plus facile d'imaginer... des choses positives quand on est au contact de récits qui se frottent vraiment à la question et qui prennent pas toujours la pire des solutions. Et donc là, très concrètement, ce qu'on a imaginé en étant vraiment un petit peu des politologues du dimanche, quoi, c'est comment, par quel type d'organisation pourrait repasser un monde qui s'est globalement effondré, où les États se sont effacés, pour parvenir à un niveau de... j'ai du mal à choisir mes mots. Pas de bien-être, pas de confort, mais en tout cas de qualité de vie, on va dire. Qui soit pas nul, quoi. Que ce soit des gens qui soient quand même dans un monde plutôt fonctionnel et même plutôt enthousiasmant, parce que construit sur plus de dialogue, sur plus de partage d'informations, sur moins de déplacements inutiles, sur donc après un faisceau à peu près infini de questionnements peut s'ouvrir sur mais alors à quel moment ça devient un peu autoritaire cette histoire, et est-ce que c'est pas cool quand même d'aller en vacances en avion, enfin, et on a essayé d'éviter de se perdre trop là-dedans, mais en tout cas l'ambition pour nous dans ce récit elle tenait beaucoup à ça, à essayer de pas mettre de côté tous les trucs, tous les aspects bénéfiques d'une société qui marche bien, parce qu'il y en a, quoi. Mm-hmm. Et voilà, après, ma réponse est déjà trop longue à cette question.
Non, mais, pas dit.
On a essayé de montrer qu'il n'y avait pas d'adhésion totale, pour éviter ce truc quand même un peu totalitaire de « Oh là là, c'est super, le futur, ils se sont tous mis d'accord ». Ça nous semblait évident qu'il fallait aussi qu'il y ait une portion des gens qui refusent cet état-là, même s'il semblait pas si mal, quoi.
Oui, il y a tout un aspect rébellion dans une partie du récit que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas fait. On va essayer d'éviter de raconter trop de choses sur vos différents récits, parce que le but, c'est aussi de donner envie d'aller les lire, les acheter, vous voir tout à l'heure, pourquoi pas.
On est un dédicace tout à l'heure à la librairie.
Et ceci étant dit, on va rentrer un peu dans le dessin, dans le graphisme, dans la composition des images. Alors, ça fait un moment que vous voyez cette image de Robin Cousin. Donc, c'est l'ouverture quasiment des milliards de miroirs.
Ouais, je sais. Pas loin. C'est vers le début.
C'est vers le début. Il y a beaucoup de... C'est évidemment pas représentatif du contenu du livre, mais il y a quand même beaucoup de scènes comme celle-ci. Des choses très géométriques avec quelques points. On a bien compris, ça figure peut-être les étoiles, quelque chose. Est-ce que c'est... une verrière, un satellite. Enfin, il y a des choses qui laissent un peu d'espace imaginaire avant de devenir peut-être plus concrètes dans les cadrages qui suivent. Et j'avais mis cette image en regard de cette ouverture aussi dessous, nous, quasiment dans les premières pages. On est aussi dans du quadrillage. On est dans quelque chose de très géométrique aussi dans toute cette scène d'ouverture, alors qu'il dure quelques cases et quelques pages. Donc ça vous faisait un autre point quand même si le traitement graphique est différent. Il y a ensuite cette question de se dire comment je représente, une fois le scénario, les enjeux un peu établis, comment je représente ce dit futur. Est-ce que d'ailleurs ça venait avec, est-ce que vous, dans le même temps, vous faisiez des recherches graphiques en même temps que vous documentiez, en même temps que vous élaboriez le scénario, ou est-ce qu'il fallait deux étapes vraiment distinctes?
Alors moi, souvent, quand je commence un livre, j'aime bien trouver une idée de dessin, souvent presque un concept, un truc que j'ai envie d'essayer, qui me semble bien collé avec l'univers ou avec l'histoire. Et pour celui-là, j'avais l'idée du flou. Et je me suis dit, je vais utiliser le lavis. Alors le lavis, c'est de l'encre de Chine plus ou moins diluée, donc pour faire plus ou moins foncé. Et donc il y a une partie qui nous échappe parce que ça réagit, le papier, la tâche se répand de certaines manières, donc on ne contrôle pas totalement ce que ça donne. Et mon idée par rapport à mon histoire, c'est que le principe des milliards de miroirs, c'est qu'on capte des images d'une planète lointaine sur lesquelles il y a quelque chose à découvrir, et qu'est-ce que c'est qu'il y a à découvrir, bon, si je ne veux pas trop vous raconter. Voilà, il y a ce genre de choses, et les images se précisent au fur et à mesure. Et en fait, ça m'intéressait de travailler sur ce flou des images qui viennent de cette planète en lien avec le flou de notre avenir, et la difficulté d'imaginer un monde qui serait pas autre chose que notre monde. Comme la difficulté à imaginer une autre civilisation qui pourrait être autre, quoi, qui pourrait être mieux, peut-être plus efficace. enfin efficace c'est pas le bon mot, mais mieux, plus mieux, voilà. Et il y a cette difficulté à imaginer quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et du coup, le flou comme ça, c'était un peu mon petit système. Je me suis dit, allez, je vais m'amuser avec ça. Après, la partie géométrie, le trait assez assez minimal et tout ça, c'est plutôt un choix personnel, une manière de dessiner qui me correspond, qui me plaît, qui laisse de la place au lecteur, qui permet aussi de faire beaucoup de pages sans passer 10 ans sur un livre. C'est aussi un choix pratique, quoi. Et un plaisir esthétique. Moi, c'est vrai que j'aime bien l'imagerie scientifique, donc les schémas, les courbes, voilà, les trucs bien millimétrés, tout ça. J'ai un petit plaisir très premier degré avec ça, donc j'aime bien l'utiliser.
Benjamin.
Le flou, le petit plaisir maniaque, des choses millimétrées, ouais, c'est des choses qui me parlent pas mal. J'avais le même point de départ en fait pour Soon. Enfin, les bouquins que j'ai fait avant, donc principalement, mettons Joker et l'Artigue et Prévert. Graphiquement, ils étaient entièrement dessinés avec des feutres, des stylos d'architecte, avec des règles, des traces cercles, et ils avaient quelque chose de, à la fois de d'assez simplifié dans le dessin, mais aussi d'assez géométrique, mais qui me permettait, par exemple, de bien dessiner une cuisine, mais un peu moins une grande forêt luxuriante, parce que ça m'aurait demandé un temps, une concentration et un nombre de séances de kiné pour mon poignet qui aurait été trop importante et puis qui esthétiquement n'aurait vraiment eu aucun intérêt. Et donc quand j'ai commencé à réfléchir à Soon en termes graphiques, ce qui est venu quand même quand on commençait avec Thomas à avoir défini les grandes lignes et presque à savoir ce qu'on allait faire comme histoire, je me suis dit immédiatement que techniquement ça ne marcherait pas, qu'il fallait que je trouve autre chose, et ça faisait quelques temps que j'y pensais. Donc c'est pareil, je suis aussi passé par la case mais je pourrais faire des lavis, en plus je me détacherais de l'ordinateur, ce serait une bonne chose et tout. J'ai pas du tout trouvé de solution pour faire fonctionner plus qu'une case ou deux avec des choses analogiques, des matériaux réels sur papier. Et donc finalement c'est cette solution là qui malheureusement est tout numérique, qui s'est imposé, qui me permettait de travailler à la fois la couleur et le dessin en même temps, et qui me permettait surtout de ne pas avoir à définir trop précisément des choses que je n'étais pas capable d'imaginer. Donc cette rencontre a été drôlement bien prévue, et c'était vraiment une capacité que j'avais pas, dessiner des villes du futur noyées dans des forêts, je voyais pas de solution. Donc le flou, des choses plus diffuses, plus suggérées que montrées, était une bonne façon de quand même narrativement parvenir à des choses sans que ce soit des solutions pas efficaces, voire ridicules. Parce que quand on veut dessiner des choses qu'on n'arrive pas à imaginer, c'est là qu'on peut tomber dans de l'anticipation de comptoir, quoi, avec des tuyaux en plastique comme les toboggans à la piscine. Enfin, c'est voilà, il y avait un.
Mais peut-être que c'est ça le futur.
Peut-être des que ce sera que de piscine, des grands toboggans de piscine. Le futur, ouais.
Tu disais malheureusement c'est tout numérique parce que c'est à ce point une souffrance de travailler que sur l'ordinateur.
Bah ça me pose une question éthique à laquelle pour l'instant je choisis de pas répondre, quoi, mais d'une dépendance de plus à des câbles de charge et assez logiquement, moi je serais super à l'aise si j'arrivais à faire des livres avec mon carnet et un stylo plume, quoi, mais de fait techniquement j'arrive pas à ce que je veux, et je crois que ce qui compte c'est le récit et le bouquin à la fin, quoi. Ouais, j'ai fait un mauvais livre sur carnet, enfin, ça marche pas.
Il y en a qui font une carrière avec ça. On ne donnera pas de nom. Oui, tu acquiesces, Robin, c'est la même chose pour toi.
Oui, c'est pareil, j'ai le même problème un peu éthique. Et pas que éthique, il y a aussi Un plaisir de se couper un peu de l'écran parce qu'on y passe quand même beaucoup. Enfin, je sais pas toi, mais moi je passe beaucoup de temps dessus. Et le lavis, ça a été quand même un truc vachement agréable. Ça relâche vachement le bras. Il y a un truc où on est obligé d'être détendu. Le pinceau, c'est très doux. On joue avec du liquide comme ça. Il y a quelque chose de ça lâche. Et tandis que quand je suis dans l'ancrage, moi, j'ai tout le bras crispé. Je veux que le treillis soit pile poil au bon endroit. Et donc l'étape lavis qui est la dernière étape de travail, c'est un moment hyper agréable où j'écoute des émissions de radio et je fais plein de pages par jour parce que je suis hyper détendu et limite je suis déjà en train de réfléchir à mon prochain livre. Enfin voilà, je divague dans ma tête. C'est un plaisir presque sensuel comme ça. Qui a été vraiment un soulagement aussi à la fin du livre d'arriver comme ça. Et je relâche, je suis juste à jouer avec mes navis.
Benjamin, tu disais que tu avais laissé tomber ton procédé d'avant, plutôt précis, architectural, etc. Sauf quand même sur pas mal de têtes de chapitre où là on retrouve.
Oui, pour la moitié du livre.
Géométrique. C'est ça.
Mais c'était une transition. En fait, on va dire.
Non,
mais
c'est ça, on peut pas y aller d'un coup.
Pour une partie de ce livre, qui est tout l'aspect historique, enfin histoire du futur, quoi, histoire entre 2018 et 2150, c'est quand même une façon de faire qui me semblait cohérente et que malgré tout j'aime toujours bien faire, même si en fait depuis la fin de ce livre j'ai pu faire un seul dessin avec les rotrings. Je pense que je suis vraiment
soigné.
Ouais, c'est bon quoi.
Adieu rotring.
Mais c'est vrai que ça s'y prêtait bien mais par contre voilà, l'autre technique a pris toute la place depuis, dans tout ce que j'ai fait depuis août 2019. Je fais toujours des dessins sur des carnets, mais c'est des dessins pour moi, c'est pas des dessins pour des livres ou c'est pas pour le travail, on va dire. Mais c'est vrai que pour ça pour parvenir à un contraste entre les deux récits, ça me semblait efficace, en fait, d'avoir du flou d'un côté et de la haute définition rotring de l'autre.
Entre les deux, il y avait cette scène. Alors pourquoi j'avais mis ça pour le bâtiment, aussi pour cette dame masquée, parce que c'était quand même il y a quelques années.
Donc oui, j'avais prévu le Covid.
Tu avais prévu pas mal de
COVID,
choses.
Pas prévu, ouais. Le Covid.
Tu avais prévu beaucoup de choses. Non, ça fait partie du jeu des représentations, des choses liées à l'anticipation. Il y a des choses entre le moment de réalisation et la publication et ce qu'on peut vivre ensuite. Il y a des choses qui se confrontent des fois plus vite qu'on ne le croirait. J'imagine que ça vous est arrivé tous les deux depuis la publication de Des milliards de miroirs ou de Soon. D'avoir des choses que vous pensiez pour vraiment beaucoup plus tard, qui arrivent un peu plus vite.
Oui, alors là, pour la blague, le masque, on me l'a souvent dit, ah là là, ils sont masqués quand ils sont dehors et tout. Dans ma tête, c'est plus que l'air est pollué. Donc, c'est pas du tout, j'ai pas prévu le Covid. Mais les anticipations. Alors il y a un truc qui était marrant, c'est que moi je cherchais sur quelle planète ça allait être cette fameuse découverte, et en fait pendant que j'étais en train d'écrire le livre, il y avait plein d'annonces régulièrement, on a trouvé une nouvelle exoplanète à tel endroit et tout ça, et la première étoile que j'avais choisie autour desquelles on trouvait une planète, je crois la semaine d'après ou deux semaines après, il y avait une annonce genre on a trouvé 6 ou 7 planètes. Mais je ne l'ai pas gardé parce qu'en fait c'était trop loin, ça ne marchait pas avec mon histoire. Mais il y avait un jeu un peu contre la montre. À un moment, je me suis dit, mais si ça continue, on va trouver des traces de vie extraterrestre avant que j'aie fini mon histoire. Quoi.
Donc tu t'es débrouillé.
Je crois que j'étais un peu trop emballé, un peu trop dans mon truc. Mais, après, au-delà de ça, moi j'ai l'impression que c'est un monde qui ressemble vachement au nôtre, quoi. Et du coup on peut quasiment dire que c'est déjà ça, c'est juste les curseurs qui sont un peu forcés, quoi. Mais il n'y a pas de je fais pas vraiment de pari sur l'avenir, sur qu'est-ce qui pourrait se passer, de prédiction, quoi. C'est plus, je force les curseurs, donc voilà. J'ai pas ressenti le truc. Ah, ça, je le sentais que ça allait arriver, quoi.
Ceci dit, dans le temps où vous travailliez tout ça et le moment de publication, il y a eu aussi pas mal d'ouvrages en bande dessinée, en littérature, au cinéma, qui ont commencé à traiter de plus en plus sérieusement et en approfondissant cette question de l'effondrement écologique notamment. Ça faisait partie à la fois du plaisir de dire ok, on n'est pas tout seul à s'y intéresser, mais aussi de cette angoisse d'auteur de vite, il faut que je sorte mon livre avant que ça soit un parmi tous les autres. Alors, peut-être pas pour faire le malin, mais il y a toujours, j'imagine, cette envie-là d'avoir une voix un peu nouvelle, un peu unique, peut-être.
Ouais, ça, je pense que ça va avec. En fait, c'est sans doute qu'on le ressent, quel que soit le sujet sur lequel on travaille. Surtout quand on se rapproche un peu de la fin, il y a toujours la trouille qu'un livre sorte un mois avant, qui parle de la même chose, et que là où on pensait avoir quelque chose d'original à montrer, en fait, tout le monde se dit ah ouais, c'est comme. C'est comme l'autre là qui est sorti il y a un mois. Il a copié l'idée ou... Donc nous on avait la trouille avec Thomas déjà beaucoup pour le titre parce que le titre qui a été, enfin le titre de notre livre c'est pas Soon en fait, c'est Hope comme l'espoir. Et puis en fait deux mois avant une bande dessinée est sortie qui parlait d'exploration spatiale avec une femme en personnage principal qui s'appelait Hope. Et on était dégoûtés. Enfin, on a vraiment l'impression que quelqu'un était venu, puis qu'il a fait hop, ça c'est à moi. Et puis bah, finalement, on a pu changer, mais ça faisait que matérialiser cette trouille là, quoi. Et il y a, je vous dis tout. Il y a un film qui est sorti aussi qui s'appelle Proxima, je crois, qui parle beaucoup de une femme qui s'apprête à partir dans l'espoir. Dans l'espace.
Et pourquoi pas.
Et qui laisse un enfant sur place. Donc c'est un enfant beaucoup plus petit que Yuri dans notre histoire. Mais c'est pareil, j'étais en train de dessiner les dernières scènes. Il y a une scène en commun dans la bande-annonce du film. Il y a une scène que j'étais quasiment en train de dessiner à ce moment-là, quoi. Et je l'ai vraiment vue. J'ai dû blêmir et changer de couleur et me dire « Oh mon Dieu, c'est encore pire, c'est un film ». Voilà, finalement, les points de ressemblance sont minces. Mais... mais oui, enfin, toi t'as eu peur de ça aussi?
Ouais, un peu. Moi, il y avait le truc où, en fait, quand j'ai commencé, il y a un mec dont on parle pas, mais c'est celui dont on ne dit pas le nom, c'est Pablo Servigne, je crois, qui a quand même, avec son bouquin Comment tout peut s'effondrer, je crois, pas mal fait. A été pas mal lu et en tout cas écouté par plein d'auteurs et d'autrices de bandes dessinées. Moi, j'ai été invité carrément à un groupe Facebook auteurs et autrices de bandes dessinées qui parlent de l'effondrement.
Ça, c'est Gwen de Bonneval qui est responsable de ça.
et donc, y avait quelque chose où, au début, on n'en parlait pas trop et à force que je travaille sur le livre, ça a commencé à devenir un sujet. Moi, au début, je me suis dit, il faut absolument que j'en parle aux gens, personne n'est au courant, quoi. Et quand j'étais à la fin du livre, en fait, tout le monde en parlait, quoi. Donc il y avait ce truc-là vite avant que quelqu'un ait la même idée, quoi. En fait, plein de gens ont eu la même idée parce que c'est juste un sujet hyper d'actualité et que les auteurs et les autrices ils parlent de ce qui les travaille, quoi. Donc je pense que c'est une question qui travaille beaucoup de gens, donc. Tout le monde a eu envie d'en parler à sa manière, d'affronter la question. Mais après, moi, je m'inquiète jamais trop de... Je suis toujours sûr que chacun va réussir à avoir son approche. Si on est suffisamment sincère, on n'est pas pareil. Donc Benjamin et moi, on n'est pas pareil. On est tous les deux sincères dans ce qu'on raconte, donc on ne va pas raconter la même chose, quoi. Mmh. Je m'inquiète pas trop du truc de ah ça ressemble à machin et alors quoi.
Oui d'ailleurs là, on détaille les points de similitude mais évidemment il y a plein de différences dans vos ouvrages. Ceci dit, tu parlais de blêmir et de changer de couleur Benjamin, là c'est sur la couleur justement que j'avais mis en regard ces pages là, celle-ci de Soon donc et puis celle-ci de, t'as vu l'art de la transition et celle-ci de Des milliards de miroirs. Parce que les couleurs sont une narration très forte dans vos deux livres, avec des choix complètement différents, mais voilà, très assumés. C'est un autre niveau de narration, c'est aussi beaucoup de questionnements, j'imagine. Qu'est-ce qu'on met ou pas comme couleur, à quels endroits? Dans Soon, ça permet un chapitrage. Dans Des milliards de miroirs, ça dépend des séquences qui sont... Mais c'est aussi plus spatial peut-être que temporel. Voilà, comment vous avez élaboré ces couleurs-là? Est-ce que c'était une difficulté supplémentaire ou des questions, en tout cas, évidemment, supplémentaires?
Moi, de la couleur, j'en mets le moins possible, globalement. Pour Soon, si j'avais vraiment décidé tout seul, il n'y aurait pas eu de rouge, par exemple. Il se trouve que pour des nécessités d'édition et de public le plus large possible et d'accessibilité, on va dire, on m'a plutôt incité à varier les gammes de couleurs. Et finalement, une fois que je l'ai testé, je me suis rendu compte que c'était intéressant. Donc ça me permettait effectivement de différencier les séquences. Et puis aussi, mais là c'est vraiment le livre de la couleur page 2, hein. C'est une séquence qui se passe plutôt dans des tons rouges, on va ressentir une chaleur, une tension qui seront différentes de celles d'une séquence qui se passe dans des tons bleus. Mais ça apportait quand même quelque chose, et plutôt par surprise. Mais j'ai l'impression que on pourrait simplifier encore et que le ton du livre n'en serait pas si affecté que ça, quoi.
Tu veux dire, il pourrait être en noir-blanc?
Quand même pas, mais moi, ce que je voulais au début, c'était avoir que ces couleurs-là, que du noir et cette espèce de vert fluo qui a été une petite obsession pendant plusieurs années de ma vie.
Robin, sur les couleurs, alors assez différentes si tu fais un traitement au lavis, évidemment, et puis...
Ouais, on retrouve les tons quand même.
Il y a les deux.
Alors, c'est vrai, la couleur, c'est... je pense qu'il y a une image un peu... Les auteurs et autrices, ils se méfient de la couleur un peu en bande dessinée parce qu'il y a quelque chose de la séduction, comme si c'était un peu facile, c'était pour choper le lecteur. Et moi, je connais beaucoup d'amis qui jurent que par le noir et blanc parce qu'ils veulent que leur dessin soit le plus proche possible d'une écriture. La couleur, c'est que des fioritures, en gros. Et c'est un point de vue que j'entends. Mais moi, j'adore ça, quoi. J'adore imaginer des ambiances colorées. J'adore les ambiances crépusculaires, les couchers de soleil, les pénombres, les lumières blafardes. Et du coup, c'est aussi une étape dans le dessin que j'aime beaucoup, c'est quand arrive la couleur. Et c'est vrai que c'est comme la, parce que j'ai dit que le lavis c'était la dernière étape, mais en fait la vraie dernière étape c'est la couleur. C'est qu'après je teinte le lavis. En fait, c'est difficile à remets celle d'avant. Ouais. Alors là, je sais pas si vous arrivez à voir, mais en gros, les lavis ils sont en rouge. Et ensuite, il y a des aplats bleus en dessous. Et en fait, il y a des endroits où ça se superpose. Du coup, ça fait des violets. Donc, en fait, chaque scène, je cherchais une couleur pour les lavis, qui sont toujours les ombres, et une couleur dominante pour le décor et les personnages. Et ensuite, donc, je cherchais une bichromie qui rendait bien avec la scène, avec le moment de la journée que c'était. Et c'est comme une dernière étape où je finis de peaufiner un peu l'ambiance, c'est le dernier petit curseur, quoi, que je me permets. Voilà, et puis c'est vraiment, il y a un plaisir aussi très premier degré de jouer avec des teintes que je trouve jolies, tu vois.
Alors, le temps file, il nous reste un petit quart d'heure. Cette conversation est vraiment très réussie, vous êtes trop bavard. On va donc accélérer un petit peu parce que l'idée était de voir, alors désolé pour le côté un peu zapping, mais on avance un peu vite dans les deux bouquins dont on a déjà pas mal parlé, mais l'idée était de voir aussi que tout ça a fait long feu et que même si, et ça c'est une citation de Benjamin Adam, je ne veux pas devenir le VRP de l'effondrement en bande dessinée, malgré tout les choses reviennent à vous, et donc il y a deux livres qui ont été publiés ensuite, Cursus fin du monde donc de Robin Cousin, alors qui chronologiquement se situe plutôt avant Des milliards de miroirs parce qu'on suit les mêmes personnages dans leur jeunesse et dans ce moment un peu collectif où ils se réunissent et où il brasse des questions politiques et de société, mais déjà voilà, sur fond d'effondrement écologique et de qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer. Et puis UOS de Benjamin Adam, publié chez 2024. Celui de Romain était toujours chez Flubbelub. Chez 2024, un grand livre muet, enfin pas muet, disons sans texte, mais quand même très sonore, et qui prolonge là plus une obsession sombre de l'effondrement, plutôt post-nucléaire. Voilà, donc tout n'a pas été dit avec Des milliards de miroirs et avec Soon. Il faut continuer, il faut prolonger, peut-être reprendre certains éléments et les détailler d'une autre manière. Enfin, est-ce que c'est finalement les deux premiers bouquins dont on a parlé, des sortes de planètes, et puis il y a des satellites qui gravitent autour. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez vos bouquins suivants ?
C'est une belle image, en tout cas.
Je ne sais pas.
Mais c'est vrai qu'on a presque pris les biais opposés, pour le coup, l'un et l'autre, sur ces deux bouquins qu'on suivit. Moi, j'ai plutôt pris le parti d'explorer l'aspect vraiment sombre et vraiment cata, pour le coup, qu'on s'était interdit d'exploiter dans Soon, parce que c'est pas ça qui nous intéressait. Et comme là, il s'agissait d'un livre vraiment plus axé sur le dessin, j'ai vraiment pu faire des grandes images et aller au bout d'envie de dessin qui, dans Soon, n'avaient pas leur place, quoi. Les questions qui en ont découlé ont aussi été un peu différentes, puisque je me suis aventuré dans des histoires plutôt de transmission, de rôle de l'écriture, du sens du rituel qu'on se passe de génération en génération, qui peut se perdre en fonction de ce qui se passe. Et c'était comme une façon d'aller voir de ce côté-là une bonne fois, pour me débarrasser un peu de ces envies qui étaient légitimes. Je suis content d'être allé au bout de ce truc de « je dessine des villes cassées », et en même temps, je sentais que ça pouvait devenir un truc... j'ai pas envie que ça devienne systématique, en fait. Il y a un romantisme parfois un peu relou aussi à fantasmer un monde qui marche plus. Et le fait, la période pendant laquelle j'ai fait UOS, pour le coup, c'était vraiment le plein cœur du premier confinement, où on avait tous l'impression que c'était la fin du monde. Et ça me faisait vachement moins rire d'un coup de dessiner des villes cassées et des articles. On en voyait tous les jours sur les sites d'info. Il y a un truc de confrontation avec le réel qui rendait ça finalement plus si souhaitable et romantique, en fait. Et en dessinant ces grandes images majoritairement dépeuplées, j'avais envie de rajouter des personnages, alors que l'ambition de départ, c'était justement qu'il n'y en ait pas. Et donc c'était pas mal, et pour le coup...
Ça t'a soigné, quoi.
Peut-être.
Pour le coup, l'option est complètement différente pour Cursus Fin du Monde.
Oui, alors Cursus Fin du Monde, c'est aussi un contexte, c'est que c'est issu d'une résidence à l'université de Poitiers, sur le thème de l'université utopique. Et j'avais pas beaucoup de temps pour faire un livre, j'avais 3 mois et demi, il fallait que je fasse 40 pages. Bon, celui-là, après je l'ai retravaillé, j'ai rajouté à peu près le double de pages, enfin ça doit faire 74 pages, je sais plus exactement. Mais du coup, il y avait cette urgence un peu, j'étais en train encore de terminer Des milliards de miroirs et je commençais déjà celui-là, déjà sur un temps court, et en fait... j'avais un manque avec Des milliards de miroirs, c'est que j'avais envie d'aborder un peu plus les questions politiques et surtout de la place des chercheurs et de la science dans la société, leur rôle qui est, il me semble, pas mal re-questionné justement à l'aune de ces problèmes écologiques et d'effondrement. C'est la parole des chercheurs... Et une réticence de beaucoup d'entre eux à se positionner aussi, parce qu'ils veulent garder leur objectivité. Et en fait, en discutant avec tous les chercheurs de l'Université de Poitiers, les étudiants aussi, j'ai trouvé ça passionnant, toutes ces questions qui se posaient, à quel point ils n'étaient pas d'accord entre eux. Et j'avais envie de mettre en scène cette... Voilà, cette discussion. Mais j'avais aussi envie de, que ça se passe de nos jours, qu'il y ait encore de l'espoir. Parce que dans Des milliards de miroirs, l'espoir, il est vraiment tout petit. Quoi. C'est, à la fin, ça dépend. Il y en a qui disent que c'est déprimant, d'autres qui disent que ça finit sur une touche d'espoir. Mais ça dépend. Voilà, il faut aller le chercher quand même. Là, il y a vraiment il y a un souffle... De volonté de faire bouger les choses, de créer quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé en faisant les ateliers. Je faisais aussi des ateliers avec les étudiants. Et ils m'ont vachement remonté le moral, en fait. De voir à quel point ils étaient au fait de toutes ces questions, qu'ils avaient plein d'idées, plein d'idéaux. Ça m'a fait du bien, en fait, et j'avais envie de leur rendre hommage, enfin, en tout cas de les mettre en scène. Et donc c'est une soirée étudiante comme ça et qui finit l'alcool aidant à vraiment remettre en cause toute l'université, toute l'organisation des sciences et à éventuellement recommencer quelque chose à zéro, quoi.
On ne dira jamais assez à quel point l'alcool est la solution à tout. Alors, il y aura encore pas mal de choses à dire et sur ces deux bouquins et sur ce sur quoi vous êtes en train de travailler qui n'est pas sans lien avec tout ça. Mais le temps file, je le disais, et peut-être on va vous passer un micro. Vous avez peut-être des questions, réflexions, une ou deux à apporter à cette conversation entre Benjamin, Adam et Robin Cousin. N'hésitez pas, ne soyez pas timide, soyez même véloce parce que le temps file. Sinon, j'en ai plein des questions, mais bon, on m'a assez entendu, je crois. Ou alors, c'était à ce point limpide. Ou alors, on conclut avec ceci, c'est-à-dire, juste rapidement, deux extraits de paroles sur ce que vous êtes en train de faire. Je disais qu'il n'est pas sans lien. Alors, il y a eu, pour toi, en tout cas, Benjamin, une pause avec Fluide, qui était... on va dire déconnecté de ces questions-là encore que. Il y a une question de société et pourquoi pas politique dedans. Mais là, tu reviens dans des questions, pour le dire vite, écologiques, autour des glaciers.
Autour des glaciers, tout à fait. Mais c'est vraiment encore un début de projet. Il est à peu près écrit et je n'ai pas vraiment commencé à le dessiner. J'ai fait tout ce qu'on fait avant de commencer un livre. J'ai essayé de préciser... vers où je voulais aller, grosso modo à quoi ça, je voulais que ça ressemble. Là où il peut y avoir un lien avec toutes ces questions, c'est que ça parle de glaciers, ça parle de climatologues, de cette mémoire du climat qui est enfermée dans les glaces et de ce qui menace à la fois les glaciers et donc les archives du climat. Et il y a quelque chose de l'ordre un peu du crime parfait là-dedans, puisque la mémoire contenue dans les glaces prouve et atteste de la responsabilité humaine dans le réchauffement qui fait fondre les glaciers et donc disparaître. Donc il y a quelque chose qui me fascine un peu là-dedans. Et puis j'avais envie de continuer dans l'anticipation, mais dans quelque chose d'un peu plus proche. Mais sans doute pour tout un tas de raisons dont on a un peu parlé aussi... réussir à établir un peu un pont entre ce qu'on imagine comme étant le futur et ce qu'on vit aujourd'hui et essayer de voilà se demander quel rôle joue la mémoire dans les liens qu'on tisse entre personnes et quelle place elle a à la fois personnellement et dans une société quoi comme effectivement la parole scientifique est particulièrement souvent remise en question quand même aujourd'hui hein, sur par exemple les vaccins mais sur plein d'autres sujets par exemple la collaboration je trouve que c'est central en fait dans ce qu'on vit et voilà je creuse petit à petit autour de tout ça.
Très bien. Robin, t'es sur au moins deux projets qui prolongent.
Ouais, quelques projets, mais en lien avec le sujet c'est un projet de série en trois tomes que je co-scénarise avec Grégory Jarry des éditions Flublub et Lucie Castel au dessin. Et là, c'est parti d'une envie assez de faire un peu un grand récit pop avec de l'aventure, des robots, des créatures bizarres et tout ça. mais qui, comme avec Grégory, on a beaucoup, beaucoup discuté de lui-même. Il a écrit des bouquins sur ces questions-là et on travaille beaucoup ensemble. Donc, on a énormément échangé sur nos points de vue respectifs sur ces questions et on avait envie de faire un truc ensemble. Et là, c'est carrément, ça se passe 500 ans après un effondrement planétaire. Il n'y a plus une bactérie sur Terre, quoi. Le vivant a disparu, quoi. Et il y a juste, c'est la première fois que je pitch, alors je vais pas bien y arriver, mais il y a une adolescente et 3-4 personnes de 500 ans maintenues en vie dans des robots, dans des liquides, dans des robots. Et en gros, c'est, ils veulent pas mourir. Et en ne voulant pas mourir, ils empêchent la vie de repartir autrement. Et en fait, c'est un combat entre cette vie qui l'énergie comme ça de la vie qui repart toujours, et les humains qui veulent pas lâcher à un moment, et genre en gros, bon, mais votre tour est fini, maintenant il va falloir passer le tour, quoi.
C'est une allégorie des baby boomers, quoi.
C'est clair. Okay.
Eh bien, merci. On verra ça dans peut-être un an, deux, je ne sais pas. Voilà, dès que ça sera prêt. Merci à vous deux pour cette conversation enrichissante.
Merci.
Merci beaucoup pour votre écoute. Bonne journée. Benjamin et Robin sont en dédicace juste après, là, d'ici quelques minutes. Ouais, dans une demi-heure à peu près. Voilà. Si ça vous intéresse d'aller en voir et en savoir plus.
Futur, littérature, cybernétique, avenir, prospective, science-fiction, liberté, utopie. Face any future. Any future. Any future.
Le podcast des Utopiales. Utopiales 2021.